Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire, selon la formule habituelle. Voilà, alors donc je comptais clore pour l'instant le chapitre Rachilde, mais sur internet, dans le livre du Périgord pourpre, Madame Teilhac Fayol et Valérie Bigot m'ont fait parvenir un article publié par Franc-Tireur de 1948. Alors, ce journal est issu de la Bibliothèque nationale, et une petite précision, Franc-Tireur est aujourd'hui, existe toujours, c'est un hebdomadaire d'information politique et générale. Donc, figure dans cet article une enquête d'André Sévry, parue sous le titre générique Paris, capitale du Périgord, et intitulée Rachilde, doyen des écrivains périgordais, avec en tête une photo donc de Rachilde sur laquelle est inscrit à 88 ans, Rachilde continue d'écrire et de lire sans lunettes. Alors je préciserai qu'elle est décédée, je crois, à 93 ou 95 ans. Voilà. Alors l'article donc de Sévry débute ainsi. C'est au troisième étage, au-dessus de la rédaction, il faut frapper deux fois. 5 coups, ensuite 3, comme au théâtre, chez la femme la plus modeste, la plus simple qui soit. Et frappé doucement, des pas ont aussitôt glissé dans le corridor. C'est elle, Rachilde, dont on vient de fêter la 88e année. Rachilde, l'écrivaine du Périgord, qui aida son mari à faire des hommes de lettres, comme Léon Blois, le terrible engueuleur, et Francis Carco, le poète de la Butte, pour ne parler que d'eux. 88 ans, les yeux bleus ont gardé leur douceur, leur douce et lumineuse profondeur, elle va et vient, et ses cheveux blancs volèrent autour de son bonnet sombre. Et voici, alors je ne vais pas vous lire tout l'article, voici la fin. Dans le coin de la fenêtre, des plantes vertes éclairent un peu l'ombre sous le portrait de Baudelaire. Près de celui de Verlaine, qu'elle soigna chez elle quand le malheureux furent certains jours de beuverie trop tapageuse, proprement balancée par son logeur. Un peu plus loin, Victor Hugo sourit au-dessus d'une poignée d'œillets fanés, et Verlaine but à gauche sur ses sourcils chinois avec l'air de dire « Souvenir, souvenir, que me veux-tu ?» Alors, il y a aussi bien des... Alors, l'intervieweur va continuer ainsi. « Des regrets, Rachilde ?»« Non. » Et elle répondit. On affirme que je n'ai pas eu la place que je méritais, admettons, mais qu'importe, j'ai eu la place que je me suis faite. Les Périgourdins sont têtus, fiers, indépendants, souvent braves, mais plus discrètement que les Gascons, voilà tout. Et quel mérite a-t-on même à 88 ans quand on ignore la maladie, le médecin? Pourtant, à ce propos, j'ai fait une remarque la semaine dernière, l'index et le majeur ne répondent plus, c'est ennuyeux pour écrire. Ben oui, évidemment. Ben, on a tous quelques ennuis, là, je n'en ai pas. Alors, j'allais parler du froid, d'humidité, donc on reprend le Sévry et du printemps capricieux, mais l'intervieweur, mais Rachid ne coupe pas. Inutile, je sais, je n'entends pas dans le sommeil, sans doute la mort est venue me serrer la main. Prenez-la, monsieur, elle n'a jamais trompé personne. Et pour en revenir, voilà, c'était la fin donc de cette interview. Alors, pour en revenir à André Sévry, alors l'auteur de cet article, il est né à Guéret, dans la Creuse, en 1900. C'est un Prochoisin, en quelque sorte. Et il est venu tout jeune à Paris avec ses parents et quitte l'école après son certificat d'études primaires et cumule les petits métiers. Engagé aux chasseurs d'Afrique, rentré en France, il devient journaliste et collabora à Franc-Tireur de 1945 à 1949. Il prendra sa retraite en 1965, on lui doit quelques ouvrages réalistes les mêmes, puis Cavalerie, qui obtiendra le prix Courteline en 1936, Côte des Esclaves en 1936 et Golconde en 1943. On va reprendre Rachilde, dans Portrait d'Orme, publié par Rachilde, donc au Mercure de France en 1930. Nous avons la semaine dernière extrait un passage consacré à Léon Blois. Il y a au tout début un écrit de ce livre, un écrit intitulé « Un peu de préhistoire, 1884-1885 » et dédié à son mari Alfred de Valette. Alors bien sûr, c'est publié par le Mercure de France en 1930 et donc c'est intitulé « Portrait d'homme » donc de Rachilde. Alors je vais vous lire un peu ce qu'elle pense d'Alfred Valette, donc son mari. Le symbolisme fut une belle manifestation d'art faite par des artistes sincères, mais il y a bien, mais il y a bien songé que ce ne fut peut-être que la silhouette du vieux romantisme collé sur un étendard de papier de luxe, une sorte de somptueux épouvantail hallucinant auquel on a ajouté, selon les circonstances, le chapeau du jardinier en chef de la nouvelle culture dont on ne choisissait pas toujours avec discernement. Tantôt une paille percée, tantôt un bicorne à plumes et parfois la casquette d'un employé de banque. Il sortit de tout cela quelques bonnes aventures pour des mots oubliés de langue française dont on ignorait relativement le véritable sens. Et en mettant la charrue devant les bœufs, on laissa pousser dans le champ, réduit à l'état sauvage, une herbe libre qui, tout en n'étant pas du meilleur blé de France, pouvait encore servir de tisane dépurative à certaines crises de gâtisme chez les chers maîtres. Elle n'était pas toujours très aimable. On continue ainsi, on luttait à coups de poésie transcendantale qui ne tranchait rien du tout, pas même les différences sur la syntaxe, et on peina sur des livres abscons qui prenaient du temps à leurs auteurs tout en épargnant celui du lecteur. La littérature qui produit le moins est toujours la plus respectée. Il vaut mieux n'écrire qu'un chef-d'œuvre quand il y en a plusieurs dans la vie d'un écrivain, fût-il très ratifié, ils ne font qu'embrouiller l'idée qu'on désire avoir de lui. Un bon livre, c'est une légende. Trois ou quatre bons livres égarent les opinions. Le critique préfère en demeurer au premier et le lecteur s'imagine que ce n'est plus du même. Voilà, comme je disais, n'était pas toujours très agréable. Hein. Alors, si tous n'en moururent pas pendant ce combat héroïque, tous en furent frappés du meilleur coin de la médaille. Dans la dernière guerre, la vraie, il y a des gens qui se trouvèrent guéris de leur crampe d'estomac vivant sous les obus, que d'autres, bien portants et robustes, furent écrasés par la mitraille. Il y a donc surgi du symbolisme des auteurs solidement trempés, ayant parcouru tous les dictionnaires reprenant goût aux Français tout court, et ceux qui en sont morts ont droit à la couronne du martyr, laquelle vaut bien le pain quotidien ou celui des quotidiens au regard de l'éternité. Voilà, alors je vais reprendre un peu plus loin cet article. Alors toujours hermétiquement serré dans un veston dolman qui ne laisse passer du faux col qu'un mince filet de linge, les cheveux en brosse, dru et brûle, la moustache rousse ou roussie par les multiples cigarettes, le masque grave, au trait régulier, l'œuf incisif, à brette valette paraissait un peu trop sérieux, l'air d'un officier en bourgeois, mais s'égayait volontiers au sujet d'un détail perçu de lui seul jusqu'à la raillerie la plus impitoyable. Le futur directeur de la revue que vous savez parlait souvent de Flaubert dans ses réunions intimes de la mère Clarisse. La mère Clarisse, c'était un café. Alors donc la mère Clarisse avec Albert Samin et Paul Maurice, les poètes tendres et délicats, ils devisaient sur une prose plus sévère qu'ils voulaient impeccable et la résumaient d'un mot coupant revenant habituellement dans ses conversations. En synthèse, le naturalisme l'offusquait presque autant que la tirade romantique, et s'il prisait fort les perfections techniques de Baudelaire et gardait un sourire narquois devant les mèches éparses des muses 1830. Ça fait... oui, c'est un peu loin. Alors, saisir la vie dans ce qu'elle a de bon ou de mauvais par le menu détail soigneusement choisi, fixer le paysage par sa nuance propre et non par l'état d'âme d'un seul témoin, décrire un être en le montrant par ses gestes, sans y ajouter les intrigues inutiles et sa personnelle psychologie, était le travail qui le préoccupait avant même la conception du roman. Comme il le présentait, une vie ne suffirait peut-être pas pour accomplir convenablement une pareille tâche. Plaire un public capricieux, amateur d'images violentes ou aimable, sans proportion avec le sujet, ne l'inquiétait guère et il ne se doutait pas de ce qu'il cherchait dans le juste milieu du réalisme. Il n'était rien de moins que la trouvaille de l'absolu. Dès qu'il s'en rendit compte ou que la vie vint le forcer au fond de ses retranchements, il cessa d'écrire, ce qui est peut-être la plus noble façon de renoncer à l'art pour le seul amour de l'art. Il eut pourtant le loisir de créer une œuvre sincèrement réaliste, aussi loin du naturalisme que du romantisme, merveille de patience et de vérité qu'un éditeur a les éditeurs, c'est dans le texte, hein, accepta en l'affublant d'un titre ridicule. Mais la puissance du souvenir de ce livre est encore telle chez les survivants du petit Cénacle, que lorsqu'on leur en parle, ils peuvent en citer de mémoire certains passages. Je dis loisir à dessein au sujet d'une œuvre de grand labeur, parce que les écrivains de cette époque-là faisaient un tout autre métier que celui d'homme de lettres. Ils écrivaient vraiment pour leur satisfaction et selon leur conscience. Alors Albert Samain était dans un bureau d'hôtel de ville, Alfred Vallet dirigeait un atelier lithographie, et est-ce que le fondateur du théâtre libre Antoine, le grand Antoine, ne fut pas employé à la Compagnie des Gaz? Voilà quelques petites précisions. Hein. Ce qu'il leur fallait risquer de tour de force pour aller renouer avec l'autre étude, encore mystérieuse, mais aussi quelle ivresse dans ce plaisir jusqu'à un certain point défendu dont les écrivains modernes ont fait un métier permis. Vous avez bien remarqué que je ne juge pas, je constate. Ancienne par l'âge et moderne par l'utilisation insolente du procédé, je ne blâme quiconque. Mais j'ai été assez blâmé par les critiques des deux époques pour pouvoir en prendre le droit et de dire toujours ce que je pense, dussé-je encourir perpétuellement toutes les foudres. Et c'est vrai qu'elle a été quand même pas mal critiquée, mais il faut croire que son œuvre de Rachilde n'est peut-être pas toujours conforme à la morale. Bien, alors, je continue ainsi. Alfred Vallêtre, bourgeois de Paris, issu d'une lignée de bourgeois bien rangés, bien sages, avait et a toujours tous les excès en horreur. À part les excès de travail, s'il abandonna le travail littéraire, pour lui, il organisa volontiers pour les autres et devint, sans le savoir ni le vouloir, un animateur, celui de son groupe. Ce qui fut d'abord, pour ce groupe fondateur, un passe-standard entre soi et devint une revue, celle qui eut longtemps l'honneur d'être appelée la revue des deux mondes des jeunes. Ce qui différencie le bourgeois de l'aristocratique, ou plutôt de l'aristocrate, c'est le mépris du panache, en l'espèce de la spéculation, panache du luxe ou panache de guerre. Mais la destinée n'épargne pas ceux qui doivent animer, réunir, diriger des hommes de valeur. Et il y a une petite note en Italie que le premier qui fut roi fut un soldat heureux. Cet article continue ainsi, le premier qu'on choisit pour le lier, peut-être le crucifier à une œuvre, c'est celui qui acceptera la plus lourde tâche, qui sera trouver son bonheur et obéissant de la plus exigeante des consignes et demeurer le soldat vainqueur, peut-être malheureux. Nul ne sera jamais excepté le journaliste qui signe ses lignes, de quelle patience, de quelle abnégation et de quelle terrible clairvoyance Alfred Vallêtre dut s'armer pour insérer dans les liens de toutes les précautions, le petit être turbulent que fut cette revue à son berceau. J'entends ici les bons camarades, vieux ou jeunes, se chuchoter à l'oreille, parbleu. Nous en ferions tous autant, si nous étions sûrs d'en arriver là. Ben non, personne ne vous le jure, on voudrait faire autant pour en arriver à s'être tout simplement privé de la seule joie intellectuelle de ce monde, vivre son rêve, rester libre, faire de la littérature pour soi, se mettre soit dans une formule au lieu d'y maintenir les autres, car lorsqu'on dirige une revue, ce n'est pas une fois qu'il faut éprouver tout l'enthousiasme de la conception d'une œuvre, c'est tous les jours et tous les jours. Il faut mettre son cerveau au service de tous les cerveaux qui la forment. Sinon, on cherche à la déformer, c'est la main de fer dans un gant de papier, et si on a la poigne suffisante pour ne pas s'y briser les doigts, on peut y user son enthousiasme. Voilà, alors donc ça c'était ce que pensait Rachilde de son mari, Alfred Vallêtre. Alors pour terminer, je crois qu'il me reste quelques secondes, je voudrais citer le bulletin de l'association Guillaume Bullet de 1989, où Claude Dauphiné a écrit un article, je crois qu'il s'intitule « Rachilde et Colette ». Voilà, Rachilde et Colette. Donc. Et puis il y en a un autre également, le bulletin de l'association Guillaume Bullet de 1991, alors toujours de Claude Dauphiné, c'est un article intitulé « Rachilde ou de l'acrobatie critique » et dans lequel elle fait allusion à son livre « Rachilde qui a été édité et donc je crois que le titre est tout simplement « Rachilde ». Voilà, je crois qu'il est temps de vous quitter, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.